Nous avons aussi un fanatique. Nous avons des obsessions, qui sont les pures obsessions juives. Nous avons des mots qui en sont juives. Et je crois même qu'un effort particulier sur le plan des sciences est nécessaire, qui cherche à soigner pour elle-même les différentes déclarations, les différentes erreurs, les différents conflits mentaux projetés qui peuvent entrer. Il y a aussi une prétention juive. Une prétention totalitaire. Et je crois que l'on peut effectivement, en toute humilité, reconnaître qu'il y a aussi un impérialisme juif, juif et israélien. Les deux existent, et je crois qu'il est inconvenant de le nier. On peut bien sûr dire que nos aspirations sont tellement saines, nous aspirons à être des justes, et par conséquent, tous les ramènent tout l'âme sadikim, et par conséquent, tout ce que font, tout ce que fait n'importe quel juif est sacré, tout ce que fait n'importe quel juif est pur, etc. Je voudrais rappeler simplement sept vertus qui sont énumérées dans le Pirkei Avot comme étant les vertus spécifiques des juifs. On nous dit aussi, toujours dans le Pirkei Avot, que Rabbi Yehuda HaKadosh avait toutes ces vertus-là, lui-même et ses enfants. Et simplement, l'énumération nous montrera que nous sommes malheureusement démunis. Il faut en prendre conscience, il faut être humble de la situation exacte dans laquelle nous nous trouvons, qui ne préjuge rien de ce que nous pourrons faire pour établir une situation différente. Bien entendu, on peut déjà vivre dans l'ère messianique. Il faut tout de même savoir où l'on est. Et bien voilà, c'est cette vertu, Hanoï, la beauté. Qu'est-ce que c'est que la beauté juive? À quoi? À ça, on sait au moins, la force. À Roche, il y a une richesse spécifiquement juive. À Kavod, l'imputabilité. À Zikna, le savoir. À Seva, la sérénité, je traduis un peu librement. À Banim, l'ensemble des personnalités distribuées entre des enfants qui chacun porte un nom, chacun d'entre eux représentant une richesse. Les 1819 auteurs du Talmud avaient chacun raison, et pendant des siècles et des siècles, on a étudié les moindres affirmations, les moindres formules de l'un ou l'autre de ces rabbins en en cherchant, en trouvant une richesse. Aujourd'hui, il suffit que deux idées soient exprimées pour que, instinctivement, nous cherchions à une disqualifier l'une. Oui. Eh bien, je crois que tous ces facteurs sont effectivement des facteurs de dégénérescence. Bien sûr, un juif marxiste pourrait être un marxiste encore plus brillant, ou un juif de droite, ou un juif de gauche, ou un juif, je ne sais pas, quelles que soient les intuitions, les aspirations, un juif qui s'occuperait de médecine expérimentale, ça existe, de science expérimentale, un juif métaphysicien, etc. Bien entendu, les qualités juives, qualités humaines, peuvent s'investir dans toutes les directions. Freud, à sa manière, a fait carrière dans tout un domaine qu'il a vivifié, etc., etc. Mais quel est le problème? Le problème, me semble-t-il, est qu'il y ait une certaine perspective de la part des individus, de la part des personnes, un certain recul qui permet de distinguer soigneusement entre les réalités et entre les aspirations. Il faut savoir que ce que l'on souhaite, que ce que l'on espère réaliser, est tout à fait distinct et tout à fait différent de ce qui se passe en réalité. Je ne sais pas si j'ai beaucoup répondu à ces quelques questions que je voulais répondre.
Ok, on n'a pas encore répondu. Et pour ma part, en tout cas, j'essaierai de répondre à la question qui était posée en premier lieu concernant la majorité d'aspects et aussi la question sur les deux aspects du retour en Israël. C'est positif et la question de l'enfant. Je vais aussi sur la question du nom et de la nature. C'est vraiment de la manie, la distinction à faire entre la réalité et l'idéal. Je voudrais quand même aussi reprendre ce problème. En fait, nous avons maintenant la question concernant la finalité de la diaspora qui a été posée de l'autre. Je signale aussi le principe avec eux que peut-être qu'il sera très certainement efficace que nous. Nous dialoguons aussi entre nous sur les analyses.
Est-ce que nous aussi on peut intervenir? Est-ce qu'enfin on peut intervenir dans la discussion sur la réponse?
Oui, quand on peut peut-être s'établir en accord.
Bon, y a-t-il un avenir de la question dans la réponse? Je crois qu'il faut que les deux aspects de la question, c'est l'aspect physique, bien sûr, l'avenir physique d'un juif dans la diaspora. On pourrait en parler. Je crois que, pour ma part, je répondrai par une citation du dernier des Juifs, dans le dernier des Juifs, il y a un dialogue entre un marché et un juif après 1933. des deux personnages quittent l'Allemagne et va dans un autre pays où ils sont quand même pris. Et ce dialogue consiste à se dire, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Où faut-il aller pour la sauver? Et puis la réponse de l'un des deux époux, c'est que finalement on en fait la sauver. Je veux dire que quel est l'avenir physique des Juifs dans la diaspora ou en Israël? La question est différente suivant que l'on peut parler au niveau de la communauté ou au niveau de l'individu. On essaie de trouver des réponses d'histoire. On pourra peut-être dire que l'avenir, c'est d'aller en Israël. On sait aussi, par l'histoire juive, que les États d'Israël ont aussi disparu. On peut se dire aussi que l'avenir, c'est d'aller en dehors d'Israël. On sait aussi, par l'histoire, que les communautés juives, en dehors de l'État d'Israël, ont disparu. Pour ma part, je n'ai pas de réponse à cette question. Le problème est individuel. Chacun doit savoir si l'esprit est quel est son avenir. Le deuxième problème, c'est le problème de l'avenir spirituel. Peut-on être juif en diaspora et doit-on être juif en diaspora? Je crois qu'à ce propos, je me permets de citer la réponse de David Benbourg. Il y a eu dans la revue Évidence un dialogue entre un rabbin américain. David Ben-Gurion vers l'année 1937. Et c'est la question qui fait l'objet de cette table ronde ce soir, un rabbin américain qui écrit à David Ben-Gurion et qui dit, écoutez, je voudrais vous poser une question très simple. Je me demande si véritablement la solution est Israël. Je me demande aussi si véritablement la solution est restée en Amérique. Je voudrais vous soumettre cette réflexion. Et David Ben-Gurion, qui était une personnalité du point de vue sioniste qui n'est pas discutable, c'est très intéressant sa réponse parce qu'elle s'établit à trois niveaux. Y a-t-il à l'avenir pour les Juifs en diaspora? Il dit ceci d'abord. Contrairement à la plupart des sionistes, je crois que le sionisme n'a de signification que par la vie dans le pays d'Israël et non par l'adhésion à une organisation sioniste. C'est peut-être une banalité, mais c'est très important. Être sioniste pour Ben-Gurion dès 1953, c'était non pas adhérer à une organisation, mais vivre. Première réponse. Deuxième point. Même en tant que sioniste, je ne puis me débarrasser du problème de l'existence du judaïsme dans la diaspora. Mais j'avoue qu'il n'existe pas de solution totale, certaine et sûre à ce problème. Ben-Gurion répond premièrement que selon lui, être sioniste, c'est vivre en Israël. Deuxièmement, être sioniste, c'est aussi se préoccuper de l'unité du peuple juif. Mais à ce propos, il ne peut pas donner une réponse historique totale à la question. Ça rejoint un petit peu une intervention de tout à l'heure au niveau politique. Pas, si la diaspora disparaissait, est-ce que l'avenir politique de l'Israël serait plus assuré? Mais je ne place pas au niveau politique, mais au niveau de place. Troisième élément de sa réponse, c'est que, en définitive, selon Ben-Gurion, ce qui peut faire l'unité du peuple juif, c'est la Bible. La Bible n'est pas seulement un livre religieux comme le Coran ou le Nouveau Testament. Sans doute la Bible est le fondement de la foi juive, mais la Bible est plus que cela. Le peuple y trouve sa source, sa suprême expression et sa vision de l'avenir. La foi juive est universelle. Si je comprends bien cette réponse de Ben-Gurion, ce qui peut donner au sionisme son universalisme ou son universalité, c'est selon Ben-Gurion. Entendu, non pas seulement comme source d'une religion, non pas seulement comme source d'une histoire, non pas seulement comme source d'une histoire religieuse, mais quelque chose qui dépasse à la fois l'histoire et la religion. Alors vous voyez, je me demande si au fond, ce n'est pas un faux problème de se dire y a-t-il de la vie du juif en diaspora. Car en définitive, il y a, je m'excuse du mot, il est peut-être usé, mais il n'y en a pas beaucoup. Il y a une dialectique, et probablement constante, entre les juifs de la diaspora et le sionisme des Juifs d'Israël. Sommes-nous arrivés à une époque où cette dialectique doit cesser? je ne dis pas oui ou non, je n'en sais rien. C'est exactement le même problème de tout à l'heure, c'est une question de choix individuel. Je n'ai pas à ma disposition de signes me permettant de dire nous sommes venus à l'époque où spirituellement la diaspora doit cesser. Je pense pour ma part, alors puisque j'ai cité un certain nombre de textes, je vais donner mon opinion. Je pense pour ma part tenu du choix individuel de chacun, qui ne regarde que chacun finalement. Si l'on veut absolument, on peut choisir un autre terme de l'alternative. Mais si on veut absolument qu'il y ait à l'intérieur du sionisme ou de l'État d'Israël quelque chose qui ressemble à de l'universalisme, je pense que ce quelque chose ne peut venir que des Juifs de la diaspora. À chacun de savoir dans quelle zone géographique se place et il se pose. En notre tête, admettons que politiquement ou spirituellement, l'État d'Israël soit la solution. J'ouvre ici une parenthèse, je ne me place pas dans l'époque messianique parce que, encore une fois, je n'ai pas de signe qui me permet de penser que nous sommes dans l'époque messianique. Étant donné que classiquement dans le judaïsme, l'époque messianique n'est pas séparable d'un messie. Or, comme tout messie, on n'a pas de messie. On ne peut peut-être pas penser que l'époque messianique. Bon, peur. Je dis simplement ceci. C'est qu'en définitive, on peut choisir que le sionisme et que l'État d'Israël soit un État comme les autres, et c'est fort respectable. Si, dans cette perspective, il ne peut être que particulier, et je ne vois pas pourquoi on le critiquerait, tous les États sont particuliers. Si l'on veut absolument qu'il y ait un caractère universel au sionisme et à l'État d'Israël, je pense pour ma part, et je ne suis pas le seul à penser, qu'il faut quelque chose extérieur au sionisme. Ce quelque chose me semble être le judaïsme. De manière. Et encore une fois, je concerne les solutions, à mon avis, elles ne sont individuelles et il ne s'agit pas de généraliser. Je crois que le danger qui guette le sionisme en tant que mouvement idéologique ou intellectuel, c'est de trancher. Je vois que même la nouvelle ne tranche pas. Il a tranché pour lui, ça certainement. Mais au niveau de l'histoire, il ne tranche pas parce qu'il ne peut pas trancher. Il ne peut pas trancher parce qu'il est dans la réalité.
À mon sens, les problèmes se posent au niveau de la bonne foi, au niveau de la bonne volonté, c'est-à-dire d'une certaine sincérité. Dire qu'il y a un moment après ce qui s'est passé il y a 20 ans, il y a une finalité du fait que le problème qui se situe au niveau de la sincérité intérieure, c'est-à-dire que l'on cherche simplement à justifier, à posteriori, c'est très difficile de le parler parce que je suis un homme de la diaspora en ce moment, mais c'est toujours une justification a posteriori, mais ça ne peut pas être, vu les événements que nous vivons, une justification a priori. Et je reprends le passage de la Gemara qui me semble très éclairant à ce sujet, c'est le passage où il est dit que Moïse, quand il a fui de l'Égypte, c'est-à-dire quand il a fui le lieu et l'endroit où était en train de se faire l'histoire juive, où l'histoire juive était en gestation, et bien il était obligé de s'enfuir, il a été chez Yitro, je ne vais pas rester longtemps chez Yitro, chez Jethro, je vais revenir tout de suite. Mais Jethro lui a dit de rester parmi nous, et dans la Bible on voit, Mayo El Moshe, la chère et sa riche, que Moïse a accepté de rester avec l'homme. Et la Gemara commence ce passage en disant qu'il a accepté même de mettre un de ses enfants à la disposition d'une idolâtrie. De mettre un de ses enfants comme de l'âge. Alors, il semble extrêmement difficile de voir comment est-ce que Moïse a pu accepter quelque chose. Et la Gemara va plus loin et dit effectivement, un des petits-enfants de Moïse a été un des prêtres de l'Avodah Zarah. C'était Ménaché. Ménaché était un des prêtres de l'Avodah Zarah. Alors, comment cela peut se faire? J'ai une explication très simple. C'est que Moïse avait beaucoup de raisons qui pouvaient le convaincre en quelque sorte à rester avec les autres. finalement, il voulait récupérer les fonds. Il voulait récupérer toute la civilisation dans laquelle se trouvent les fonds. Et il a réussi dans une certaine mesure. La preuve, c'est que Jethro s'est converti, Jethro est revenu, il s'est marié avec sa fille parce qu'il pensait que c'est tout un peuple qu'il allait transformer, qu'il allait provoquer en quelque sorte dans son salut. Mais la Gemara, le Talmud, qui va plus loin que l'explication des mots, dans ce vaïo, elle, Moshe, la Gemara a perçu une sorte de volonté de Moïse de ne pas retourner à la lune. Il y avait un certain confort. Il y avait un certain lieu dans lequel il était confortable de vivre. Et finalement, tous les raisonnements qui pouvaient le pousser à rester étaient des raisonnements a posteriori, des justifications plutôt que des motivations. Alors je pense que tous les raisonnements et tout ce qu'on peut sortir comme motivation, ça peut être, à mon sens, que des justifications a posteriori, ça ne peut pas être a priori vu l'échec, ces derniers temps surtout, d'une dernière fois, après l'Holocauste d'Auschwitz, et après ce dépaysement et ce départ de tous les juifs du monde entier, et après ce qui arrive en Israël, je ne pense pas que l'on puisse dire que l'histoire juive et que la vocation juive puisse se faire nulle part ailleurs qu'en Israël.
Le débat, comme on vient d'en parler, la production, il y a certainement ce qu'on a dit brièvement. Et je disais donc, je vais en ce sens, alors là, je crois qu'il est difficile de faire rappeler que, étant donné le caractère délicat des choses que nous avons manuées, il est bien évident qu'aucun exposé ne doit être entendu comme plaidoyer pour le mot, et aucune de ces points de personne ne doit être interpellé, je trouve ça pour tout le monde, moi y compris. C'est que nous nous retrouvons être la diaspora de Médina d'Israël contemporaine. Alors ce passage, c'est banal de dire que nous sommes une génération charnière, toutes les générations charnières de quelque chose. En fait, ce passage, comment dire, est difficile à faire, et la réadaptation du destin individuel avec la lutte en tout cas du destin collectif n'est pas une chose simple. J'ai pour ma part 20 ans à faire ce passage. Et 20 ans, c'est long. D'arriver à faire coïncider ma conviction personnelle avec des choses que je savais, que j'apprenais, que je comprenais. C'est pour ça, de passer entre le savoir et le vivre, et comme disait la Ben-Gourion qui a été citée, c'est une expérience existentielle à faire. Simplement, vous décrire quelques petits projecteurs. Il y a dans la salle un certain nombre d'Israéliens qui peut-être apporteront de l'eau à la lumière. Je me réfère par analogie à un thème salut qui dit énormément à l'homme, c'est non et à l'eau, mais à l'homme, mais à l'eau. Apparemment, c'est un tout autre sujet d'ailleurs. Salut dit dans ce même camarade de Foucault, cela ne ressemble pas celui qui apprend de lui-même et celui qui apprend de son maître. Et nos données, à l'homme, c'est dans les vénages, mais à l'homme, c'est dans les vénages. J'ai toujours été frappé par, vous savez, il y a toujours un punch, l'humour dans la formulation de la musique, par l'humour qu'il y avait dans cette formule. Parce que, en plus, les années, ça ressemble, ça ressemble pas. Quelle est la définition de ce qui ressemble? Parce que c'est pas la même chose. Alors, il aurait pu dire, ça ressemble. Mais ça ressemble pas. Vous comprenez ça? Alors, parce que la réponse que j'ai eue, c'est assez doux domaine au domaine. Même ressembler, ça ressemble pas. Ça a l'air d'être plus politique, vous avez entendu. Alors, je vous donne un exemple. J'ai connu en diaspora, pendant les 21 ans, 7 ans pour Rachel, 7 ans pour Léa, mais 7 ans pour
qui? 7 ans pour qui?
Pour qui? Pour qui? Je sais pas, j'ai pas besoin de profiter.
Ces mêmes chuteaux dans la diaspora et ces mêmes chuteaux dans Israël, je suis obligé de dire à qui nous donner et nous donner. Même si on dit ça va changer. Mais ça ne peut pas s'analyser, ça ne peut pas s'expliquer, ça ne peut pas se transmettre. C'est un peu expérimenté. Je me souviens d'un de mes excellents amis, qui était un de mes co-anciens d'Orphée de la deuxième promotion, il y a 5 ans. Vous avez ma prononce ? Qui lui revenait d'Israël. Mais qui avait à l'époque une option un peu d'être répartant. Et lui me disait, Manitou, je t'en prie, ne va pas là-bas. Parce que si tu vas là-bas, tu vas te faire avoir. c'est pas un choc, en fait, les mots. C'est une espèce d'authentification, de renormalisation, de l'identité profonde, que donc peut-être nous avons été, chacun de nous à sa manière, une des dernières générations, en tout cas, au bénéfice du choix individuel, à avoir tenu le coup. Dans une identité secondarisée de la diaspora, et redécouvrir la vie hébraïque. Ce n'est pas israélienne, je ne sais pas, la vie hébraïque. C'est El Akilu Domé. Ça ne se traduit pas. Est-ce que vous connaissez? Et bien là, nous revenons pour l'enfant, en l'espace de quelques mois. C'est ce pourquoi on peut espérer, tous mes ancêtres, depuis le début, ça se réalise. C'est-à-dire le fait d'être de l'île, comme je dis, c'est que ça aille de soi. Je n'y viens pas. Tout l'aspect de l'appauvrissement culturel qui risque de s'y attacher par le fait, effectivement, je fais allusion à un certain nombre d'invitations qu'on s'est données sur le rôle universaliste d'Israël réglementé par les villes de la diaspora, par le fait qu'effectivement, là-bas, nous ne sommes plus au contact avec les élèves, avec les cours de civilisation extérieure qui font la civilisation universelle à l'échelle des nations. Sinon, on ne peut pas voler. Sinon, on ne peut pas voler. Mais j'ai un doute. Je ne crois pas que la diaspora puisse disparaître. Il y a des gens qui auront un long temps de rémanence à réadapter les rapports d'identité. Mais je crois que le lieu focal a changé. Je ne vois pas une expression personnelle. Les handicaps passent là-bas. Ça ne veut pas du tout dire qu'il n'y a pas d'organisme, mais d'espèce entre les révolutions dans les communautés de la diaspora pour reprendre le langage personnel lui-même. Et c'est pourquoi je vous disais tout à l'heure, nous assemblons à un certain moment une sorte de démobilisation. Être juif, c'était devenu un militantisme, devenu un métier. Alors que pour nos parents, dans les villes, ils disent, il n'y a plus de vivre en diaspora. Il y a une espèce d'héroïne permanente à se récupérer à un ennemi. Et c'est très malheureux à dire. Nous n'avons plus de vie foncière en diaspora que des secondarisés, c'est-à-dire des intellectuels, en fin de compte. Mais c'est pas normal. Et ça ne veut pas dire que je jette la pierre en fait intellectuel vif en fonction, c'est mon cas. Il faut bien comprendre ça. C'est le drame des étudiants. Ce sont des professeurs qui font des élèves d'école juive pour avoir des élèves d'école juive. Ça en vrai, il en vit. Ça ne veut pas du tout dire qu'il n'y a pas eu effectivement de l'âge dans le diaspora. Peut-être que justement, la finalité et la fonction de la diaspora, ça veut dire une époque de migration qui est tout à fait normale. Ça a été individuelle, ça a été ressenti différemment. Je vous donne simplement mon témoignage personnel. J'ai vécu cette migration. Et on ne peut pas démontrer un témoignage. On ne peut pas dire. Car, c'est bon. Alors, je reviens en tout cas à la. Un témoin ne peut pas se récuser. On ne peut que la chasser. Vous savez bien,
dans les
deux sens. Et la question est de savoir comment le judaïsme de la diaspora récupérera une identité hébraïque. Parce qu'il y avait un judaïsme de la diaspora d'identité juive non hébraïque. Nous étions tous de double appartenance, même linguistique, nous étions jumeaux quelque chose. Je vous pose la question brutalement. Il n'y a plus de juifs. Il n'y a plus de juifs latinos. Il n'y a plus de juifs non hébraïques. Dans l'avenir, tout est le judéo quelque chose, le juif de la diaspora. Et pas seulement en tant que judéo. Bien sûr, au point de vue, du point de vue culturel, je ne sais pas. C'est vrai qu'il est possible que surgisse quelque part un foyer de culture juive diasporique qui soit autre que les souvenirs que nous avons apportés de Manasso et que nous avons assez bien à la sauce française et à la sauce américaine. C'est bien clair. Nous n'avons pas le judéo-franco. Nous n'avons que des êtres judéo quelque chose d'autre. Nous n'avons pas encore arrivé à faire un judéo-yiddish qui s'est reconnu un judéo-franco dans le sens de l'Union. Et ils ont mis des hommes pour empêcher une collusion claire entre Ismaël et Esaü. Il nous a expliqué ça comme ça. Nous avons eu des plans pour empêcher ça. c'est le passé qu'elle a pu retomber, racontez une anecdote que je voudrais, l'équipe que je voudrais vous rappeler. Je veux dire, c'est lorsque elle arrive des questions de fond, des questions de genre, la réponse est pratiquement unanime, quelle que soit les apparences d'options individuelles. Alors, il parlait devant un étudiant de la vie, en fin de compte, dans les moments de genre, effectivement, il y a des choses de l'alliance, et ces films-là sont les vertus. Alors je vous souhaite pour terminer un film, tout à mon sens, qui est d'ailleurs déterminant pour moi à l'échelle individuelle, et qui me semble absolument irréversible. Ce que je vis tous les jours de ma vie maintenant, si ce dont vous savez, merci aux enfants de vous les deux. Et que finalement, à l'échelle de l'identité collective, en fin de compte, dans les moments de genre, effectivement, il y a des choses de l'alliance de ces films-là contre les vertus. Alors je vous souhaite pour terminer un film, tout à mon sens, qui est d'ailleurs déterminant pour moi à l'échelle individuelle, et qui me semble absolument irréversible. Ce que je vis tous les jours de ma vie maintenant, si ce dont vous savez, je dirige une échiva en vieille ville de Jérusalem. Absolument unanime, il y a quelque chose qui est arrivé avec Jérusalem, quelquefois, et le résultat de cette force politique. Nous sommes engagés actuellement pour savoir à qui, le cas échéant, donner les Shtachim, à ce qu'ils appellent les territoires occupés, et nous appelons en général les territoires où les Arabes ont été libérés, pas les territoires encore, mais les Arabes ont été libérés. Et nous pouvons à qui parler de ça. Nous avons traversé énormément de tentatives de diversité, énormément d'humanité. Et chaque fois que nous avons été plus un peu au miroir aux adversaires, chaque fois qu'il y a eu une tentative de diversité, qui a été la prochaine, quelle histoire dont je te présente pour nous montrer la Renaissance, le génie de la Renaissance, etc. C'était la peine de reprendre ce que tu disais et puis demain. Alors nous avons une espèce de fascination de la conscience unique, laisser, diagnostiquer, allons jusque-là, en tout cas une méthode, allons jusque-là, et puis seuls les marxistes-sionistes ont fait comme Joseph, une extrémiste sont sauvés de l'investissement, de la paix. Parce que vous me posez la suivante, comment se fait-il, comment ne pas garder une sympathie pour le monde marxiste, même au fond des marxistes de l'origine de formation, de la méthode, étant donné l'état politique de l'État, étant donné plus que la haine, enfin, étant donné la détermination de suppression de l'identité qui protège de la civilisation marxiste. Vous savez, la même chose qu'on pouvait dire face au monde chrétien. Comment de garder ou retrouver fraternité avec le chrétien qui se réfère après tout à l'équité de convaincance d'espérance spirituelle après ce que le monde chrétien après le mouvement de l'Église. Et ça prend pas trop beaucoup. Nous sommes allés beaucoup plus loin, peut-être, une question d'intérêt, une question d'existence. Je voudrais juste dire que je connais un certain nombre de théories scientifiques qui vont se trouver dans ce cas. Que peut-être il faudrait, pour retrouver l'honneur, en tout cas, peut-être que le monde se met à côté de nous, vous êtes à côté de nous. Et c'est un peu trop facile de dire que ce sont les déviations du marché qui nous ont fait du mal. Surtout, on n'est pas les déviateurs de n'importe quoi.
Je veux bien discuter. Si vous n'êtes pas israélien, c'est l'évangile du Talmud et de l'évangile, c'est la parabole du Talmud et de l'évangile de la paille et de la poudre. Alors, vous permettez, je vais vous mettre un élément positif dans cette discussion.
Ma paille et le Talmud.
L'élément positif a été apporté par la discussion. C'est que le signe de l'époque messianique ou le signe du retour, ce serait la libération de Jérusalem en tant que capitale.
c'est à la fois un signe spirituel et un signe politique. À mettre au débat de ce soir. Le deuxième élément positif, c'est la réponse qui est donnée dans le texte que je suis permis de citer au problème de tout à l'heure, aux questions qu'a posées implicitement, malgré son apparente contradiction, M. Messas, et les questions que vous posez tout et qui dépassent largement le débat, je ne vais pas essayer d'y répondre, c'est trop long. Quel est le statut de la culture? Alors, admettons que le problème se pose. Eh bien, la réponse de Belleville est possible. Assez élémentaire, mais je crois qu'il faut commencer par l'élémentaire avant de se lancer plus haut. Il dit ceci, finalement, je ne crois pas qu'il existe une solution pour lui de la trois sans le point. La vertu sans être renforcé avec le plan avec l'État d'Israël, je médite, il y a une sorte d'osmose réciproque nécessaire et de dialectique entre le judaïsme de la diaspora et le judaïsme d'Israël. Premier point. Et deuxième point, c'est une éducation hébraïque dont la base est la vie. Alors, je voudrais insister sur un caractère, un élément nouveau qui n'avait pas été vu les sionistes. C'est que pour les sionistes, le moteur proton m'a dit tout même, le moteur proton, c'est un peu c'était le recul économique. Certains juifs ont voulu être goy chez eux. Le refus des goyim au niveau physique et au niveau spirituel. Et le sionisme a